Le passage que nous allons commenter se trouve dans le livre d'Isaïe au chapitre 21, versets 6 à 12. En voici la lecture. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place le guetteur, qu'il annonce ce qu'il verra. S'il voit un char attelé de deux chevaux, un cavalier sur un âne, un cavalier sur un chameau, qu'il fasse bien attention, qu'il redouble d'attention. Celui qui regarde a crié. À mon poste de guet, mon Seigneur, je me tiens tout le jour, à mon poste de garde, je reste debout toute la nuit. Et voici ce qui vient, un homme sur un char attelé de deux chevaux. Il prend la parole et dit, elle est tombée Babylone, et toutes les statues et ses dieux sont par terre, brisés. Toi que le Seigneur a battu, comme le grain sur son air, j'ai appris cela du Seigneur, le Tout-Puissant, Dieu d'Israël, je te l'ai annoncé. Proclamation sur Douma. On me crie de Séhir. Veille, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Le veilleur répond. Le matin vient, et de nouveau la nuit. Si vous voulez encore poser la question, revenez. Alors ce passage du livre d'Isaïe est très illustrateur, oui, de ce qu'est le livre d'Isaïe. Je vais faire une petite digression avant de vraiment plonger dans le commentaire de ce passage sur un petit peu le livre d'Isaïe, qui est un cas d'école. Si vous voulez, le livre d'Isaïe, en gros, se compose de trois parties. La première, qui est attribuée au prophète Isaïe lui-même, du chapitre 1 au verset 39 plutôt, et la deuxième partie qu'on attribue au deutéro Isaïe, un prophète inconnu, du chapitre 40 au chapitre 55, qui est un prophète, disons, qui lui prêche à une période totalement différente d'Isaïe. Isaïe, lui, le vrai prophète d'Isaïe, du chapitre 1 au verset 30, au chapitre 39, il est à la, comment dire, il prêche, il prophétise à une période difficile, à l'époque de l'Empire assyrien, au 8e siècle. Et l'Empire du Nord s'est effondré, et il voit l'effondrement de l'Empire du Nord, du Royaume du Nord d'Israël, dont la capitale était Samarie. Et il ne reste plus que le royaume de Juda dans lequel Isaïe prophétise, royaume de Juda qui était menacé par les Assyriens et qui s'en sort miraculeusement, comme se racontait dans le livre des rois, le roi Ézéchias, donc se sort miraculeusement d'un siège qui est fait contre Jérusalem. Mais c'est une période difficile parce que le peuple de Juda est dans le doute par rapport à ce grand voisin syrien et surtout le traumatisme de la chute du royaume d'Israël du Nord, car bien que séparés, c'était tout de même des frères en religion, les Israélites par rapport aux Judéens. Et le Deutéro-Isaïe, lui, est une période, disons, un à deux siècles plus tard, le 6e siècle, il assiste au retour, il est à la charnière entre la fin de l'exil de Babylone et le retour de l'exil à Babylone. Donc ces prophéties sont effectivement marquées par la joie, par les Perses qui vont faire effondrer l'Empire babylonien, ce qui va conduire à la libération des exilés judéens, notamment les habitants de Jérusalem, qui vont revenir en Judée, à Jérusalem, rebâtir le temple, comme c'est raconté en Zacharie, Agée, Néhémie, Esdras, dans ces livres. Et puis vous avez le Trito Isaïe, un autre prophète, chapitre 56 à 66, où là, c'est la période, disons, d'Esdras et Néhémie, c'est vraiment le retour d'exil, où tout ne se passe pas comme il faut. Et ce qui rend le livre d'Isaïe un petit peu plus difficile, c'est que dans, notamment, la première partie qui est attribuée à Isaïe, eh bien, il y a des passages qui viennent d'autres prophètes de l'école d'Isaïe, du Deutéro Isaïe, du Trito Isaïe ou d'autres prophètes, qui, visiblement, prophétise à la période non pas d'Isaïe, mais plutôt du Deutéro Isaïe. Eh bien, ce chapitre 21 en est une très bonne illustration, parce qu'il est bien évident que à l'époque d'Isaïe lui-même, eh bien, Babylone n'existait pas vraiment en tant qu'empire et il n'est pas question de parler de la chute de Babylone. Alors je sais bien que certains vont dire que Isaïe prophétise à l'avance, et pourquoi pas, mais tout de même, si on prend le Deutéro Isaïe, où on donne jusqu'au nom du Perse qui va renverser l'empire babylonien Cyrus, c'est pas tellement dans les habitudes de la Bible de faire Madame Soleil et de dire le nom précis, etc., 2, 3 siècles à l'avance. C'est une tendance que l'on donne. C'est pour ça que je penche plutôt pour l'explication qui est en vigueur dans l'Église catholique, de dire qu'il y a eu plusieurs prophètes qui, et c'était très fréquent, se mettent sous le patronage d'Isaïe, qui a tellement influencé, qui a eu un tel impact dans l'école prophétique. Et ce chapitre 21 est une illustration de cette espèce de cathédrale qui est le livre d'Isaïe, où, eh bien, dans le gothique, il y a du roman, etc., et ça se mélange, et il y a des retouches. Eh bien, voilà un chapitre qui est postérieur, pardon, probablement à la période d'Isaïe lui-même. Il aurait bien trouvé sa place, on va dire, dans le Deutéro Isaïe, du chapitre 40 au chapitre 55. Enfin bref, c'est pour que vous sachiez ce genre de choses, parce que c'est intéressant aussi de voir comment un livre s'est composé, comment la Bible est le résultat de plusieurs contributions, où toute cette pâte humaine, ces auteurs humains ont été là, et puis dans cette pâte, il y a comme au cœur l'inspiration de l'esprit, ce qu'on va essayer maintenant de voir ensemble. Alors ici, le thème, c'est vraiment le guetteur. C'est ce que d'ailleurs nous devons être en tant que chrétiens dans ce monde, le guetteur. Nous allons voir un peu plus ensemble. Donc voici ce que dit ce chapitre, si on recommence un petit peu la lecture, verset par verset. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place le guetteur qu'il annonce ce qu'il verra. S'il voit un chat attelé de 2 chevaux, un cavalier sur un âne, un cavalier sur un chameau, qu'il fasse bien attention, qu'il redouble d'attention. Alors c'est un passage qui paraît un peu mystérieux. Quel est ce cavalier, avec ce chameau et cet âne? Alors on pense que c'est une allusion aux Perses et aux Mèdes, donc cet empire qui va renverser Babylone, avec l'âne et le chameau qui sont des symboles et que des animaux que l'on associe volontiers avec ce nouvel empire qui va renverser les Babyloniens. Donc ici, si vous voulez, l'interprétation historique et littérale est que Dieu dit que l'empire babylonien va s'effondrer. C'est ce que le prophète commence à voir d'ailleurs. Et donc il guette pour voir l'arrivée des Perses et des Mèdes qui vont faire tomber cet empire babylonien qui a été cause pendant 70 ans de tant de souffrances pour le peuple de Jérusalem qui s'est retrouvé exilé. Donc à toute souffrance, il y a une fin. Et notre rôle à nous, chrétiens, c'est d'être, si on transpose à notre époque, c'est d'être des guetteurs de l'espérance. Et voilà notre rôle. Si maintenant on prend une interprétation, comme je le dis dans mes enregistrements, plus morale ou anthropologique, quel est notre rôle? Eh bien, dans un monde qui va pas bien, etc., nous devons être pleins d'espérance. Non pas par la méthode Coué, parce que tout va bien, etc., et que il faut s'en persuader, mais parce que nous avons ce privilège, par la parole de Dieu, par le Christ, eh bien, de savoir, nous, que le monde, eh bien, les souffrances, ce monde-là n'aura pas le dernier mot, et qu'il y a, à l'image de ce Christ qui est venu planter sa croix pour après ressusciter et nous conduire à la vie éternelle, eh bien, depuis la croix du Christ, nous savons que la grâce a fait son entrée pleine et entière en ce monde, et qu'elle travaille comme le levain dans la pâte. Et notre rôle, c'est de guetter pour dire que vraiment, cette vie, eh bien, ce n'est pas la fin de toute chose. Nous devons en être persuadés. Nous devons, comment dire, être ceux qui perçoivent les clins d'œil de l'esprit, les gestes, la présence de l'invisible dans ce monde visible, dans l'opacité de la matière de ce monde visible. Nous devons être ceux qui discernent la présence discrète de Dieu telle qu'elle a été révélée en son Fils Jésus. Dans notre vie, sommes-nous des guetteurs? Avons-nous, par notre prière, la tête, les pieds sur terre, mais la tête au ciel? Savons-nous discerner les clins d'œil de Dieu par son Fils Jésus qui nous dit: Je t'aime, je suis là, présent, continue sur ta route? Nous devons vraiment prier pour avoir vraiment, cette perception de la présence de Dieu, discrète, mais ô combien efficace et réelle. Et seule la lecture de la parole dans un esprit de prière, la prière, le contact avec Dieu, peut nous rendre sensibles à cette vision. Alors, vous voyez, ici, si on continue à mon poste de guet, mon Seigneur, je me tiens tout le jour à mon poste de garde, verset 8, je reste debout toute la nuit. Et voici ce qui vient, un homme sur un char attelé de 2 chevaux. Il prend la parole et dit, elle est tombée Babylone, et toutes les statues de ses dieux sont par terre brisées. Nous devons être persuadés que rien ne résiste à la grâce de Dieu et que toute puissante que puisse être Babylone, elle finira par tomber. Que tous les dieux, que toutes les sécurités que ce monde se met pour se couper de Dieu, eh bien finira par tomber. C'est la fin des temps. C'est ce qu'on appelle la fin des temps qui a commencé avec la croix du Christ. Eh bien, quand nous voyons nos églises se vider, quand nous avons l'impression que le message chrétien n'est plus perçu, soyons ces guetteurs et soyons convaincus que cette Babylone, ce système, de ce monde qui va à l'encontre de Dieu, eh bien finira par tomber, telles ces statues qui se brisent, qui n'ont aucun pouvoir. De même, vous voyez, si maintenant on prend une vision plus intérieure par rapport à notre quotidien, des fois nous avons de tels défauts, de tels péchés, nous désespérons. Mais continuons à guetter, c'est-à-dire comme nous dit le Christ, veillez et priez. Continuons à prier, sachant que la grâce de Dieu travaille en l'intérieur de notre cœur et que tout d'un coup, cette carapace, ces défauts qui nous semblaient impossibles à vaincre, finiront par tomber tels ces statues. Alors, bien loin de nous décourager quand nous péchons, prions pour la miséricorde, pour le pardon et redoublons d'efforts sûr que la grâce de Dieu travaille. Voyez, nos efforts, ce n'est pas ce qui nous sauve, mais nos efforts sont nourris par notre espoir et nos efforts sont entretenus par la présence du Christ en nous parce que nous savons que nos efforts ne sont pas une fin en soi, mais une aide au travail puissant et réel de la grâce de Dieu. Voilà la véritable repentance, c'est non pas se décourager, mais continuer, sachant que Dieu fait son chemin, Dieu est à l'œuvre. Et de même, vous voyez ce qui peut nous donner de l'espoir quand nous avons cette prière pour quelque chose de bien particulier dans notre vie, cette souffrance que nous pouvons avoir, ou ce péché que nous avons, dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Eh bien, soyons comme ce guetteur qui guette l'âne et le chameau. Il y a des signes que Dieu nous donne qui montrent que, eh bien, ça travaille en nous. Tel défaut, eh bien, même s'il revient, il y a des petits signes qui montrent que nous sommes sur la bonne voie, que bientôt, il ne fera plus partie de notre personnalité, il ne nous défigurera plus. De même, dans ces périodes des fois de doute ou de tristesse que nous avons, soyons ces guetteurs pour percevoir la lumière, pour ce message du Christ qui nous dit « Tu es sur la bonne voie, je te délivre petit à petit ». Et pareil pour nos frères, parce que ça peut être aussi interprété comme ça. Soyons des guetteurs. Nous prions pour la conversion de nos frères. Rien ne semble se passer. Mais soyons des guetteurs. Voyons le moindre petit signe qui montre que la grâce de Dieu est au travail dans le cœur de ses frères pour qui nous prions et que nous aimons. Nous ne les aimons pas comme une fin en soi, mais de même que nos efforts pour nous-mêmes, comme une aide à la grâce de Dieu. Cette aide qui est très efficace, mais qui n'est qu'une aide à cette grâce réelle qui fait le principal du travail dans le cœur de nos frères. Voyez, nos gestes de charité, nos efforts par rapport à nous-mêmes, nos gestes de charité par rapport à nos frères sont un prolongement de notre prière. Et si nous avons bien ça en tête, nous ne nous découragerons pas, découragerons pas, je vais y arriver, bien au contraire, voyez, pas de découragement, parce que nous savons que tout ce que nous pouvons poser comme acte, comme prolongement de notre prière, eh bien, c'est quelque chose qui hâte l'exaucement. Mais ce qui est premier, c'est la grâce du Christ qui travaille. Ce Christ qui est comme ce guetteur qui est venu planter sa croix pour que du haut de sa croix, nous aussi, avec lui, nous guettions vraiment la résurrection. Eh bien, dans nos défauts, dans la conversion de nos frères, en regardant ce monde qui semble tellement éloigné de Dieu, soyons ces guetteurs de l'espérance, sachant percevoir les signes avant-coureurs de la victoire de Dieu, Et alors nous verrons tomber cette Babylone. Et suivons le chapitre, le verset 10. Toi que le Seigneur a battu comme le grain sur son aire, j'ai appris cela du Seigneur, le Tout-Puissant Dieu d'Israël, je te l'ai annoncé. Vous voyez ici, c'est un message de ce guetteur qui dit, tu vois, tu es dans la mouise, tu es dans les problèmes. Cette personne pour qui tu pries est indifférente. Toi-même, tu es toujours dans tes problèmes, toujours vaincu par le péché. Ce monde semble loin de Dieu. Cette vie semble tellement loin du ciel. Eh bien, voici le message. Le Seigneur, eh bien, travaille. Il bat son air, il rassemble le grain. Eh bien, je te l'ai annoncé, je te le dis, le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille dans cette vie. Il nous prépare à la grande rencontre. Il prépare ce monde à sa transformation de la fin des temps. Et il prépare nos frères, il nous prépare à la conversion, à la victoire sur notre péché. Et le verset 11, eh bien, proclamation sur Douma, qui veut dire silence. On me crie de Séhir, veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Le veilleur répond, le matin vient et de nouveau la nuit. Si vous voulez encore poser la question, revenez. C'est un passage qui semble bien mystérieux, mais qui est finalement assez clair. Vous voyez, le veilleur revient, il ne se passe rien. Ben, revient le matin, revient la nuit, il n'y a rien qui se passe, mais continue, persévère, veille et prie. Vous voyez, après les versets 6 à 10 qui nous montrent, surtout 6 à 9, la victoire finale de Dieu, le verset 10 nous rappelle que la victoire est là et que Dieu nous l'annonce malgré les difficultés présentes. Le verset 11 et 12 était comme un prolongement du verset 10. Il nous fait revenir, un petit peu comme si on descendait de cette montagne de la transfiguration, il nous fait revenir dans le quotidien où il nous montre bien que tout est douma, tout est silence, et que nous sommes là à veiller dans la nuit, dans les ténèbres, rien ne se passe, mais il faut continuer à revenir, continuer à avoir cet esprit en éveil de questionnement, voilà, ne pas se laisser abattre par les apparences, ce monde qui est loin de Dieu, cette vie qui semble tellement éloigné de cette présence du Seigneur vers lequel nous aspirons, que sera cette rencontre après la mort, eh bien tout ça, ce monde visible semble tellement loin. Nous-mêmes, nous semblons tellement loin. La vie quotidienne nous semble tellement lourde, et les frères pour qui nous prions semblent si peu bouger par nos prières. Eh bien voilà le texte qui nous dit, eh bien veillez, veillez, et revenez le matin. Le matin vient et de nouveau la nuit, mais revenez poser la question. C'est un appel à la persévérance. Parce que ici nous avons au verset 6 à 9 le résultat. Ayons bien à l'esprit ce résultat, cet âne et ce chameau qui va venir, pour justement nous aider à persévérer tant que nous sommes dans la nuit. Ton frère pour qui tu pries, etc., ne change pas, il ne se tourne pas vers Dieu. Mais ça ne fait rien, parce que la grâce travaille. Et il finira par se tourner vers Dieu, en ce monde, et si ce n'est pas en ce monde, c'est dans l'autre, grâce à tes prières. Toi-même, tu sembles courbé sous le fardeau du péché, de la tristesse, de la dépression. Continue, veille, le Seigneur va t'ouvrir un chemin. Ce monde semble loin, il y a de quoi baisser les bras, ne baissons pas les bras. Continuons vraiment à questionner ce monde par notre prière. Soyons les empêcheurs de tourner en rond. Voilà, c'est nous le point d'interrogation qui fait que ce monde va s'ouvrir à Dieu. Continuons à prier. Voilà, c'est vraiment ce message que ce texte nous donne. Soyons des guetteurs, les guetteurs de l'Évangile. C'est ce à quoi nous appelle le Christ quand il nous dit « veillez et priez ». Finalement, nous chrétiens, nous sommes les guetteurs. Comme dit le Christ, nous sommes la lumière du monde. Et comme le dit ce texte, en d'autres termes, les veilleurs dans la nuit. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire partager. Et je vous propose maintenant de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence. Vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Mais avant de vous donner ce temps de silence, je voudrais revenir sur ce nom de Douma qui veut dire justement silence. Oui. Ben, ça confirme un petit peu dans ce silence de Dieu en apparence. Nous sommes les guetteurs pour percevoir le petit clapotis du Seigneur qui vient avec son char. Et ce char, ce bruit va se faire de plus en plus gros. Et c'est la victoire, c'est le Seigneur qui va se faire. C'est la conversion de nos frères. C'est notre propre conversion dans nos zones d'ombre. C'est ce monde qui va s'ouvrir à Dieu, c'est le passage de cette vie à l'autre. Voilà, c'est vraiment ça. Nous passons de ce silence de Dieu, petit à petit, à cette présence, non pas bruyante, mais toute claire, toute forte et audible du Seigneur. Voilà. Tant que nous sommes dans le Douma, ben nous sommes appelés dans ce silence, à la persévérance. Prions. Seigneur, fais vraiment de nous des guetteurs. Habitue notre regard à tes clins d'œil. Oui, montre-nous que tu n'es pas si silencieux, que tu n'es pas si absent en apparence, mais que tu es bien là. Et que tu travailles discrètement, mais bien présent. Oui, ouvre nos yeux à ta présence dès ce monde. Et Seigneur, apprends-nous que nous devons guetter les signes de la victoire, parce que tu nous promets vraiment que Babylone tombera, que tout ce qui fait obstacle en nous, en nos frères, en ce monde, oui, en cette vie, à ta présence finira par tomber. Ce que tu nous demandes, c'est dans ce douma, dans cette obscurité, de continuer à veiller, oui, vraiment, d'être en éveil, en question, comme le dit le texte. Apprends-nous, Seigneur, la persévérance, quelles que soient les apparences. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.